Mes amis, la première lecture est venue me chercher d'une manière particulière. C'est l'histoire de Anne, peut-être que nous connaissons bien. Et cette femme a fait l'expérience de la stérilité durant plusieurs années. Et elle désirait tellement avoir un enfant. Alors, ce qu'elle faisait, c'est aller au temple, carrément demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi un enfant. » Je voulais tellement avoir un enfant. Cela lui a pris plusieurs années. Finalement, le Seigneur a exaucé sa prière. Anne est tombée enceinte et elle a donné un fils à qui elle a donné le nom de Samuel, qui veut dire justement « Dieu exauce ». Mais c'est l'attitude de Anne que j'aime beaucoup. Alors elle s'est dit, comme cet enfant, je viens de le recevoir de Dieu, comme je l'ai reçu de lui, quand il aura été sévré, voici ce que je vais faire. Je le prendrai, puis je l'amènerai chez Dieu et je vais l'offrir chez Dieu. Je vais l'offrir à Dieu parce que je l'ai reçu de lui. Et c'est ce qu'elle va faire Anne, c'est ce que dit le texte. Elle ira et va offrir Samuel au temple et on sait que Samuel deviendra un grand prophète. Anne donc a offert son enfant à Dieu. Aujourd'hui, ce texte me permet de comprendre d'une manière particulière le baptême. Quand nous baptisons nos enfants, il me semble que nous reprenons le geste de Anne. Seigneur, cet enfant, je l'ai reçu. Aujourd'hui, je le prends et je l'amène chez toi. Je reste convaincu pour ma part que quand le Seigneur nous a créés, il nous a créés avec la possibilité d'enfanter, de mettre au monde des enfants. Mais en même temps, je reste convaincu aussi que dans le don d'une vie, dans la naissance d'un enfant, il y a toujours la main de Dieu. Il y a toujours quelque part la puissance, la présence de Dieu. Nous ne sommes pas des maîtres à 100% qui donnons la vie. Il y a toujours la main de Dieu. Alors, c'est reconnaître finalement que les enfants que nous avons eus, les enfants que nous avons, ce sont des dons de Dieu. Et la manière de l'exprimer, c'est faire comme Anne, c'est porter nos enfants continuellement dans nos prières, dans nos pensées. Je l'ai entendu de plusieurs d'entre vous, je l'ai entendu d'autres, dans d'autres paroisses où j'étais, que finalement quand on est parent, on l'est toute la vie. Cela nous poursuit toute la vie. Je me dis, c'est important de laisser Dieu être Dieu dans nos familles. Dans ce sens que, c'est vrai, quand on est jeune parent, on a de jeunes enfants et il faut veiller sur eux, surtout la nuit. Alors, quand les enfants pleurent, parfois on a des insomnies, on manque de sommeil ou on n'arrive pas à dormir assez. Il faut tout le temps aller voir l'enfant. Mais il arrive toujours qu'on tombe endormi à cause de la fatigue. Mais la question, alors quand papa et maman dorment et le bébé est seul, qui est-ce qui garde le bébé? Pour dire, comme être humain, nous ne pouvons pas protéger nos enfants à 100%. Impossible. Nous sommes des êtres limités. C'est ainsi qu'il faudrait avoir une brèche, ouvrir un espace pour Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, il faut laisser Dieu être Dieu dans nos familles. C'est-à-dire, Dieu peut continuer à protéger nos enfants. Dieu peut continuer toujours à veiller sur eux quand nous ne sommes pas là. Quand nous devons partir faire les achats, on doit confier l'enfant à quelqu'un d'autre. Quand les enfants s'en vont jouer, tu ne peux pas être toujours là que l'enfant ne tombe pas. En fait, il faut apprendre à confier, comme Anne, nos enfants à Dieu. Et laisser Dieu le protéger avec sa puissance, avec son amour. D'ailleurs, même maintenant que nous sommes venus des adultes, nous sommes des grands-pères, et même encore maintenant, nous pouvons continuer à prier pour nos petits-enfants, nous pouvons continuer à les offrir au Seigneur, nous pouvons continuer à offrir nos enfants au Seigneur, continuellement. Et la préoccupation de l'Église aujourd'hui, comme dans notre paroisse, où on voit très peu de jeunes qui viennent dans nos communautés, et les jeunes qui sont en contact toujours avec les parents, avec les grands-parents, le souci de la prière, de savoir les offrir continuellement, quoi qu'il arrive, de les laisser tout ça dans les mains de Dieu, c'est laisser Dieu être Dieu. C'est laisser Dieu agir avec sa puissance et conduire nos familles, conduire nos églises. Il faut avoir cette confiance en Dieu. Parce que finalement, il ne faudrait pas que tu confies l'enfant en Dieu et puis tu continues encore à t'inquiéter, ça ne vaut pas la peine. Quand tu as confié l'enfant en Dieu, tu dors, tu ronfles. Parce que Dieu va s'en occuper. C'est ça, confier l'enfant en Dieu. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que la messe d'aujourd'hui, nous allons prendre nos enfants dans notre cœur, nous allons prier pour eux et les offrir. Comme on a fait l'expérience de la rencontre de famille durant ces fêtes, d'autres le feront au Nouvel An, il y a des enfants qui viennent nous visiter et puis ils doivent repartir. Qui va les protéger quand ils repartent? Parfois on est inquiet. Je dis, mais non, je ne veux pas être inquiet, je les confie à Dieu. Que leur voyage soit sain et sauf, qu'ils arrivent là, hein, à bon escient, à bon endroit où ils vont partir. Voyez-vous. Alors tout cela, on offre au Seigneur. Regardez, Anne, elle est partie au temple pour prier. À ce moment-là, le temple était à Silo. Alors, le temple, dans la conception hébraïque, c'était l'endroit où il y avait la présence de Dieu. C'est là où tu pouvais aller parler avec Dieu, faire l'expérience de la présence de Dieu. Mais maintenant, beaucoup plus tard, le temple va être déplacé. Ça sera à Jérusalem. C'est David, le roi David qui va le déplacer. Et maintenant, la présence de Dieu dans le temple de Jérusalem. C'est pourquoi Marie et Joseph, selon le texte d'aujourd'hui, font le pèlerinage pour aller au temple. Parce que le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu. Mais maintenant, avec Jésus qui naît dans un foyer, dans une famille, Jésus est le réceptacle de la présence de Dieu. Il est le Fils de Dieu, il est Dieu. C'est que la présence de Dieu est maintenant posée au sein de nos foyers, au sein de chaque famille. Chaque famille devient, si vous voulez, le temple de Dieu. Parce que Dieu veut s'exprimer, veut se dire, Dieu veut se donner dans chaque famille. Alors la famille devient le lieu de la présence de Dieu. En famille, on peut se mettre à genoux et prier Dieu. En famille, on peut invoquer le nom de Dieu. En famille, on peut faire l'expérience de la présence de Dieu parce que le Fils de Dieu a voulu naître dans un foyer, il a voulu naître dans une famille, c'est pour marquer la famille de sa présence. Voilà pourquoi les familles chrétiennes ne doivent pas perdre l'habitude de la prière familiale. Que les parents doivent apprendre à s'agenouiller avec les enfants à prier. Quand vous allez mettre votre enfant au lit, si c'est le petit enfant qui vient vous rendre visite, vous priez avec l'enfant. La famille qui prie fait une expérience extraordinaire. Et la grâce de Dieu fait des merveilles, fait des surprises. Un couple qui régulièrement se met à genoux, prie ensemble, le Seigneur donne des grâces, fait des merveilles, fait des surprises. On fait une expérience, une autre expérience que si on ne priait pas ensemble. Donc la prière est importante et il faut s'appeler le nom de Samuel. Dieu exauce. Alors, il faudrait qu'on apprenne, on réapprenne dans nos familles les moments de prière, les moments où on doit s'unir et reconnaître la présence de Dieu en notre sein, la présence de Dieu dans nos familles. J'ai entendu de plusieurs d'entre vous et aussi d'autres personnes que j'ai connues dans d'autres paroisses qui disaient qu'ils se rappelaient très bien quand ils étaient jeunes en famille et que le soir, ils devaient se mettre à genoux dans leur maison pour s'unir au chapelet du cardinal Léger de Montréal. Tout le monde se mettait à genoux, on récitait le chapelet. C'est resté marqué, c'est resté dans la vie de plusieurs d'entre nous. Alors, ce sont ces moments importants que nous devons aussi essayer de graver dans le cœur de nos enfants la reconnaissance de Dieu, la nécessité de Dieu, la nécessité d'une vie spirituelle de l'âme. La vie, ce n'est pas seulement le corps, le physique. Il y a aussi l'intérieur, il y a l'âme, il y a la spiritualité. Dieu ne nous a pas créé seulement corps, il nous a créé aussi spirituel avec l'âme. Alors ce sont ces choses-là qu'il faut continuer à nourrir et qu'il faut rappeler à nos enfants, aux petits, à nos petits-enfants, voyez-vous. Alors je regarde l'évangile. Je trouve que ça a été bien présenté parce que l'évangile qu'on présente aujourd'hui, c'est le deuxième chapitre de Luc. Et en fait, c'est à la fin du deuxième chapitre. Et à cette fin-là, c'est la première fois qu'on ouvre la bouche à Jésus, qu'on fait parler Jésus. Alors, c'est important de voir quelles sont les premières paroles que Luc propose pour Jésus. Et Jésus dit à Marie, à Joseph, « Est-ce que vous ne savez pas que je dois être chez mon père ?» Voyez-vous? Alors, la première référence de Jésus, être chez son Père, c'est ce qui donne son identité, dit qui est Jésus exactement. Jésus a une relation spéciale avec Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le visage de Dieu. Jésus est l'image de Dieu. Jésus est l'expression du Père. Alors, en tant que tel, c'est ce qu'il fera durant tout l'évangile, durant toute sa vie. Il ne fera qu'annoncer le Père, son royaume, sa volonté, ses désirs, pour le faire connaître aux humains. Donc, Jésus, c'est celui qui est au Père. Mais maintenant, nous, vous et moi, nous sommes des disciples de Jésus. Nous devons être comme lui. Nous devons être chez notre Père. Être chez notre Père, c'est donner la première place à Dieu dans nos préoccupations. C'est donner la première place à Dieu dans nos projets. C'est donner la priorité à Dieu dans tout ce que nous organisons comme plan. C'est reconnaître Dieu dans notre vie. C'est ça, être chez notre Père. Mais être chez notre Père, ce n'est pas seulement se contenter de la famille biologique. Dans la famille biologique, c'est vrai que le Seigneur vient nous parler. C'est vrai que la famille biologique, c'est le temple de Dieu. Mais il ne faudrait pas oublier que notre famille biologique doit s'ouvrir à l'autre famille biologique et à l'autre famille aussi. C'est que la famille biologique, la famille ne doit pas rester comme une monade, une famille enfermée sans fenêtre. Si le Seigneur nous a appelés à former une famille, c'est pour qu'avec les autres, nous constituions la grande famille de Dieu. Maintenant, il ne faudrait pas considérer d'abord dans la famille biologique, nous ne devons pas considérer nos sœurs comme des rivales, on ne va pas considérer nos frères comme des rivaux, on ne va pas vivre tout le temps en tension, on ne va pas considérer les membres des autres familles comme des rivaux, mais nous les considérons comme des personnes que Dieu aime. Est-ce que tu sais que Dieu aime ta voisine? As-tu déjà pensé que ton voisin est vraiment dans le cœur de Dieu et dans la préoccupation de Dieu? Alors, c'est pour dire que nous sommes appelés à voir les autres comme Dieu le voit, à voir le regard de Dieu comme Dieu regarde les autres. Pour dire, finalement, l'esprit des familles est un esprit qui s'ouvre, qui se répand. Et Dieu se révèle à nous et veut justement que nous constituions cette famille-là. J'aimais beaucoup un message du pape quand il était aux États-Unis. Et que c'était la rencontre des familles, alors il disait une chose réaliste. Il dit, il n'y a aucune famille parfaite. Il dit, toutes les familles ont des problèmes. Parce que parfois on se dit, ah, tout ça, ça m'arrive à moi. Je crois que mes voisins, ils sont tellement bien, tous ces problèmes, toujours moi. Du tout. Chaque famille a des problèmes. Alors le pape qui rappelle, écoutez, dans les familles, c'est là parfois on se chicane, on se dit, parfois on se blesse, et puis on rentre en conflit, on se divise. Mais il faut garder l'amour pour arriver à surmonter ces moments de tension, ces moments de difficulté. Ne prenez jamais la haine, parce que la haine ne conduit à rien. La haine nous conduit à des divisions, à nous enfoncer encore davantage dans la perdition, dans le mal. Mais toujours l'amour, qui est l'amour de Dieu, ça nous permet de sortir, d'agrandir et d'avancer continuellement. Ici sur la terre, nous serons appelés à grandir continuellement dans l'amour. L'amour, c'est une école où on apprend continuellement. On peut arriver, on est tombé, il faut se relever, continuer à grandir, à s'affermir continuellement. Alors c'est cet amour-là qui va nous permettre de vivre ensemble comme de vraies sœurs, de vrais frères parmi nous, tout en nous inspirant de la Sainte Famille. Parlons de la prière, et je termine avec cela. J'ai beaucoup aimé l'histoire de sœur Mariam. Elle a été béatifiée, mais exactement canonisée, parce qu'elle a été proclamée saint le 17 mai. Cette année. Alors on raconte d'elle que malheureusement quand elle avait l'âge de 3 ans, elle a perdu son père et sa mère. Mais alors que son père se mourait, dit le texte, alors son père fait une prière à Saint Joseph. Il dit, Saint Joseph, je suis en train de mourir, tu sais que je suis malade, ma femme est en train de mourir, nous avons notre petite fille ici, elle a 3 ans. Je t'en supplie, protège ma petite fille. Toujours est-il que les parents vont mourir, la petite fille sera prise par sa tante, mais dans les péripéties de son histoire, il y a eu beaucoup de difficultés. Entre autres, une fois on va la retrouver sur la rue, à Bethléem, la gorge presque tranchée. Et puis on s'occupera d'elle. Finalement, elle va continuer à vivre, la petite, donc Mariam. Et puis finalement, elle va devenir religieuse en France, à Marseille. Elle entre comme novice dans un couvent. Son français est difficile, elle ne comprend pas bien les choses, elle ne parle pas bien. Et au couvent, on ne voit pas très bien sa voix. Mais la maîtresse dit non, cette fille-là, elle est bonne pour devenir une carmélite. Les soeurs qui sont toujours enfermées et qui prient. Alors c'est là qu'on va l'envoyer. Finalement, elle deviendra religieuse. Et puis elle formera aussi un groupe de carmélites. Et voilà qu'elle a été canonisée, hein, des carmélites de Bethléem. Et voilà qu'elle a été canonisée en sainte, aujourd'hui, sainte Mariam. Moi, je me dis, regardez comment la prière de son père, là, moi, je trouve qu'elle a été efficace. Saint Joseph a bien gardé la fille de ce monsieur-là, qui a imploré son pardon. Hier, j'étais avec une paroissienne et puis j'ai échangé avec elle. Elle me disait, elle venait de placer sa mère. Et puis elle me confiait qu'elle avait beaucoup de doutes. Elle ne pensait pas que sa mère allait s'adapter dans la résidence parce que sa mère commence le début de Alzheimer, malheureusement. Alors, elle pensait que ça allait être difficile. Alors qu'elle s'est préparée à placer sa mère, elle m'a dit qu'elle faisait de neuvaine, elle a fait de neuvaine. Pour que sa mère, ben, quand elle entre, ben, qu'elle puisse s'adapter, que les choses aillent mieux. Et selon elle, en tout cas, quand sa mère est entrée, à son grand étonnement, à la fille, il n'y a pas eu de difficulté du tout. Sa mère s'est adaptée et dit, le Seigneur a exaucé ma prière. Ce témoignage-là m'a fait aussi du bien. Avec ce que je vivais dans mon cœur, quand elle me racontait ça, ça m'a fait du bien. Moi, je me dis, Dieu exauce ses prières. Samuel. Alors, tu regardes ce que Dieu a fait pour Anne. Ce que Dieu a fait pour ce papa-là qui a prié pour Mariam, et puis ce que Dieu a fait pour notre paroissienne. Moi, je me dis, aujourd'hui, il faut se tourner vers la Sainte Famille. Il faut demander des bénédictions et des grâces pour nos enfants, nos petits-enfants, pour nos familles. Et faire confiance parce que Dieu exauce les prières. Amen.